France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle met en scène son texte « La chair est triste, hélas », où elle explique pourquoi, il y a 5 ans, elle a dit « stop au sexe ». Ovidie sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, c'est l'heure de la séquence critique de cette émission, avec deux films qui commencent par une crise de couple, deux films réalisés par des acteurs. On va donc parler de Connemara, d'Alex Lutz et de Libre-Échange de l'Américain Michael Angelo Covino. Vous écoutez les Midis de Culture et vous n'êtes pas seul, vous savez. Et pour échanger autour de ces deux films, aujourd'hui, Guillaume Orignac, critique et cinéaste, bonjour.
Bonjour Marie.
Charles Bosson, critique essayiste et documentariste, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec Connemara, qu'Alex Lutz adapte du roman de Nicolas Mathieu, paru en 2022 chez Actes Sud. Il est donc question d'Hélène, incarnée ici par Mélanie Thierry, qui a fui ses Vosges originelles pour la capitale, où elle a, comme on dit, réussi sa vie, bon job, beau mariage, beaux enfants. Mais, à la suite d'un burn-out, elle choisit un retour au vert et tombe sur Christophe, Sébastien Bouillon, ancienne gloire du lycée qui lui est resté là. Les deux vont s'aimer, connaître à nouveau ces émotions qui donnent le sentiment de vivre. Mais une telle passion peut-elle durer? On commence avec un avis rapide, Guillaume Orignac.
Ben, pour moi, c'est un film qui est hors sujet parce qu'il se refuse à filmer ce qu'il devrait, enfin ce dont il doit parler. Et probablement parce qu'il y a une sorte de vanité d'auteur derrière qui fait écran.
Charles Bosson.
Alors moi aussi, je me suis senti très vite éjecté du film. J'ai eu du mal à m'intéresser à ce personnage féminin et à cette espèce d'énorme armature que le cinéaste construit autour d'elle. Et je suis déçu parce que je suis toujours curieux de l'œuvre assez protéiforme d'Alex Lutz.
On va écouter tout de suite la bande-annonce de Connemara.
C'est quoi un mec comme moi?
Bah une star.
Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star?
Comme une seule.
Je vais me marier, Jenna va demander en mariage.
T'es amoureux?
Mais non. Mais ta gueule, bien sûr, je suis amoureux.
Félicitations.
Bah ouais, merci, je sais pas, ouais, en fait, un truc.
On se voit. On se fait du bien.
C'est pas aussi simple.
Attends, je te rappelle. Toi, t'as toujours vécu là? T'as jamais vu plus grand parfois?
Je crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas. Sauf que pour des gens comme vous.
Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là, Carmen Berge.
Tu peux pas me dire les choses?
Bah parce que c'est toi qui pars.
Il est débutant.
Oui.
Pas très dégourdi.
Ça, oui.
On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable.
Voilà la bande-annonce de Connemara d'Alex Lutz avec donc Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, mais aussi entre autres Grégory Montel et Jacques Gamblin. Guillaume Orignac, pour vous, c'est un film qui ne filme pas ce qu'il doit filmer. Alors que devait-il filmer?
Alors d'abord, il devait filmer parce que l'adaptation du roman de Nicolas Mathieu, puisqu'il il est tiré de ce roman-là, qui est un roman qui est une sorte de fable sociale sur une transfuge de classe. Alors il y a quelque chose d'intéressant sur l'idée de cette transfuge de classe. Et en fait, elle veut revivre un élan amoureux. Donc revenir en arrière, revivre ses 20 ans. Mais le problème, c'est que revivre ses 20 ans, c'est aussi revivre le moment où elle était dans une classe sociale qu'elle a abandonnée, qu'elle a quittée. Donc il y a une sorte de contradiction interne dans ce premier film-là, qui serait intéressante à voir. Mais très vite, on comprend qu'Alex Lutz veut faire un autre film. Cet autre film, ce serait une sorte de portrait féminin, d'étude de caractère à la fois de son actrice et du personnage qu'elle interprète. Et ça peut donner des très beaux films. Hein. Je pense qu'il pense à Cassavetes hein, quand il fait ce film-là. Alors peut-être en passant par peut-être indirectement par le film qu'avait fait Amalric avec Vicky Krieps qui s'appelait Serre-moi fort. Voilà, où on ressent qu'il l'a vu, qu'il s'est intéressé à ce format-là. Le problème, c'est que très vite, il va opérer deux glissements en fait sur ce portrait féminin. Le premier glissement, c'est que le portrait de féminin devient un portrait totalement subjectif. On est vraiment dans le point de vue subjectif de son personnage féminin. Donc, on ne voit plus du tout ce qui se passe socialement, le théâtre social, le décor social, il disparaît complètement, il disparaît littéralement à l'image, puisque tout est filmé à la longue focale, dans un flou artistique. Voilà. Et le deuxième glissement, c'est que on va passer du point de vue subjectif au film ASMR. Alors le film ASMR, c'est les vidéos ASMR, c'est ces vidéos qu'on fait où on enregistre très délicatement et de manière microscopique le son, et c'est censé produire un effet apaisant sur celui qui regarde la vidéo. Alors pour moi, c'est un effet très urticant.
Moi aussi, c'est agaçant.
Je trouve ça très agaçant. Et là, j'ai l'impression d'avoir vu deux heures de film ASMR autour du grain de peau de Mélanie Thierry. Et je trouve que le film rate du coup complètement son récit, qui est un récit sociologique, un récit, une sorte de caractérisation sociale d'un parcours féminin, et qu'il rate complètement ça au profit de cette espèce de film ASMR qui, à mon avis, dénote une sorte de conception très naïve de la mise en scène de la part d'Alex Luce, qui est que, en fait, il faut maniérer. Pour faire cinéma, il faut maniérer ses sons et ses images, il faut les déconstruire. Or, pas du tout. Les sons, les images, le cinéma, c'est un art d'enregistrement objectif d'abord. Et donc, il faut retrouver cette objectivité-là un moment dans les cadres. Et quand on veut faire un film avec un point de vue subjectif, il faut le faire en géomètre. Ça doit être très, très précis. Et là, c'est très vague.
Charles Bosson.
Oui, en fait, dès les premières scènes, alors c'est intéressant, c'est que sur les deux films dont on va parler cette semaine, j'ai l'impression que la première scène miniaturise un peu tout l'univers du film, ce qu'il va être capable de faire, son ambition, etc. Là, dès le début, il y a une espèce comme ça d'arsenal du subjectif, dont parle très bien Guillaume, avec vraiment des nappes de flou, des points de vue subjectifs, on est perdu dans les cheveux, dans les dos, etc. On est vraiment à l'intérieur, comme ça. Il réutilise même ce que fait assez bien Audiard, ce qu'Audiard appelle ses mano negra, c'est passer la main devant l'objectif, refermer à la main l'objectif, pour faire des espèce de réduire les zones de visibilité. D'ailleurs, c'est Éponine Momenceau qui est la chef opératrice du film, qui est aussi la chef opératrice de Dipan. Donc, il y a un langage comme ça, un petit peu à la Audiard. Le problème, c'est que le personnage qui nous présente, et on le comprend immédiatement, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire une sorte d'exposé PowerPoint, très banal, elle fait un burn-out, et là, la mise en scène paraît beaucoup trop énorme, beaucoup trop compliquée, beaucoup trop chichiteuse, pour finalement décrire quelque chose qui est de l'ordre d'une fracture, ce qui devrait être une naissance, et qu'on a envie de suivre vraiment, effectivement, comme un géomètre, comme une rupture sismique, et on a envie de... Alors, on pense à Cassavetes, effectivement, on pense au film de Paul Newman avec sa femme Joanne Woodward, on pense au film de Paul Mazursky, Une femme libre. En fait, le génie de ces films-là, c'est que finalement l'acteur ou souvent les actrices sont toujours plus fortes que des cinéastes qui sont eux-mêmes de grandes machines à filmer. Et en fait, les actrices dépassent toujours. Ce qui était beau dans le film d'Amalric dont tu parles, Guillaume, Serre-moi fort, c'est qu'il y avait plein de dispositifs très très intelligents, assez ludiques, notamment sonores, avec des pièces, on entendait des choses d'une pièce à l'autre. Là, finalement, l'expérience que Lutz propose, elle est assez prévisible, assez balisée, et j'ai l'impression comme ça qu'on me met dans une espèce d'aquarium, et je passe totalement à côté de la langue de Nicolas Mathieu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a vraiment son identité.
Alors, Alex Lutz revendiquait de s'être éloigné du roman. C'est une erreur à votre sens ?
Alors, non, mais on peut tout à fait choisir comme cinéaste de s'éloigner du roman d'origine. Là, le problème, c'est que on a l'impression qu'il veut, il ne croit pas à sa matière. Il a peur de sa matière. Il a l'impression que ça va faire un téléfilm, et donc il cherche à faire cinéma. Le problème, c'est qu'en faisant cinéma, il barre la vue, c'est-à-dire il barre la vue au spectateur. Il met sa main de réalisateur devant les yeux du spectateur, qui ne voit plus strictement plus rien. Il ne voit pas de personnage, il ne voit pas de construction, il ne voit pas de séquence. Les seuls moments, il y a deux seuls moments où on a l'impression d'une respiration enfin, c'est les moments avec les parents, en fait. D'une part, Jacques Gamblin et d'autre part, Clémentine Sélarié, qui joue la mère de Mélanie Thierry. Et quand j'ai vu cette séquence d'explication entre la mère et la fille, c'était à la fois une respiration et en même temps, je me suis dit, c'est une séquence très très banale, très attendue finalement dans le récit. Mais par contraste, elle fonctionne. Parce qu'enfin, il regarde ses personnages. Enfin, il filme un visage qui parle plutôt qu'un grain de peau, un épiderme. Le problème vraiment avec ce point de vue subjectif ASMR, comme je le disais sur Mélanie Thierry, c'est qu'il croit très naïvement qu'il peut filmer sous le crâne de son personnage. Or, quand on regarde Gone Girl de David Fincher, il l'avait dit très explicitement, on ne peut pas filmer sous le crâne d'un personnage. Tout ce qu'on filme, c'est un masque, et c'est à partir du masque qu'on doit composer son cinéma.
Vous disiez, Charles Bosson, que c'était intéressant dans la filmographie d'Alex Lutz, ce film.
Oui, parce qu'elle est très éclatée. Moi, je suis toujours un peu amusé par ces cinéastes qui vont du premier au 12e degré. J'ai l'impression que Lutz, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. J'aime bien sa veine 12e degré avec Guy, qui était un film que je trouvais assez fascinant dans le portrait. Et puis La Vengeance au triple galop, sa série vraiment parodique qui s'amusait à vraiment reprendre des feuilletons. Donc voilà. Là, je trouve que dans cette veine-là, il est tellement dans ce premier degré, tellement dans cet ego d'auteur que je le trouve un peu écrasé par ses modèles. Et on le voit par exemple juste dans l'affiche du film, qui pourrait rappeler presque un peu Autant n'emporte le vent, avec la figure de l'homme, comme ça, très prédatrice, un peu au-dessus, et ce sourire de Mélanie Thierry, qui en fait, moi, ne m'évoque rien, à part peut-être le plaisir que les deux acteurs ont partagé ou ont passé ensemble. Et en fait, le problème, c'est qu'il essaye de rentrer sous le crâne et à l'intérieur de ses personnages, mais il ne filme que une sorte de vague témoignage du moment passé entre les acteurs. Et c'est tout ce que je vois malheureusement dans ce film. Et je trouve que ça contredit tout à fait les expériences les moments très expérimentaux de la filmographie de Lutz actuelle, où il va être à la fois dans Vortex de Gaspard Noé, là on vient de le voir dans le très bon Fils d'eux, où vraiment il va aller vers quelque chose d'un peu plus caustique, un peu plus cynique, et qui est dans la langue de Nicolas Mathieu. Quand on relit un petit peu, j'ai relu quelques pages de Connemara, en fait il y a quelque chose d'assez grinçant, d'assez méchant, d'assez satirique, et qui irait pour moi avec un langage beaucoup plus net. En fait, on entend les marques, on entend ces novlangues d'entreprise, voilà, on entend les choses avec précision, et là le film ne fait que nous en éloigner, et finit par nous noyer dans le flou, dans l'ASMR.
Donc c'était Connemara d'Alex Lutz, qui est en salle dès aujourd'hui. Charles Bosson, vous allez garder la parole puisqu'on passe à votre coup de cœur.
Eh ben oui, je viens avec un chef-d'œuvre et sa descendance. Alors le chef-d'œuvre s'appelle Entre le ciel et l'enfer. C'est un film d'Akira Kurosawa qu'on peut voir au cinéma en ce moment grâce au distributeur Carlotta. Et le film Descendance est Highest to Lowest de Spike Lee, qui est en ligne depuis quelques jours, qui est son remake, qu'on peut voir sur la plateforme Apple TV+. Alors Entre le ciel et l'enfer est un des rares polars de Kurosawa. Il date de 63. Il est adapté d'une nouvelle d'Ed McBain, qui est un peu le simenon américain. Kurosawa avait une grande admiration pour le style sec, réaliste, dépouillé de ses auteurs de polar. C'est un des 16 films qu'il va faire avec Toshiro Mifune, son acteur fétiche, qui joue ici le patron d'une usine de chaussures pour dames qui sera victime d'un terrible kidnapping. On lui kidnappe son garçon, son fils, et les maîtres chanteurs lui demandent une somme absolument colossale. Or, le père est prêt à tout abandonner, à tout dépenser pour sauver son fils. Mais coup de théâtre, et là je ne gâche pas grand-chose parce que ça se passe dans les 20 premières minutes d'un film qui dure 2h30, ce n'est pas son fils qui a été kidnappé, mais celui de son chauffeur. Et tout à coup, ce polar se double d'une fable morale, d'un questionnement moral. Est-ce que ce roi du capitalisme, le personnage s'appelle King chez Spike Lee et dans le roman original, qui vit au sommet de la ville de Yokohama, est-il prêt, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour sauver l'enfant d'un autre et peut-être pour aller sauver son âme? Et tout à coup, il faut descendre du plus haut de la ville vers le plus bas pour aller apporter une rançon. Et ce film, qui mêle le thriller, la femme morale, la lutte des classes, va avoir une descendance majeure dans l'histoire du cinéma. Car avant Spike Lee, c'est le jeune Paul Schrader, futur scénariste de Taxi Driver, qui va reprendre le scénario d'Obsession dans son film Obsession, qui sera réalisé par De Palma en 76. Il va reprendre l'exacte topographie de la scène du train et du dépôt de la rançon. Et il va faire dans son œuvre de cinéaste, il va mettre en scène beaucoup, très souvent, des hommes qui descendent eux aussi dans les entrailles des villes pour aller trouver un innocent ou pour expier une faute. C'est aussi le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho qui va, dans Parasite, Palme d'Or à Cannes en 2019, faire reconstruire au mètre carré près la maison de Entre le ciel et l'enfer, et lui aussi va se passionner pour ses habitants des profondeurs, ses parasites, ses Mickey 17 qui sont les grands héros de son cinéma. Alors le film de Spike Lee, Highest to Lowest, avec Denzel Washington, c'est leur 5e collaboration ensemble, il est un peu décevant. C'est finalement le remake le plus frontal, mais aussi le moins subtil de ces générations de remakes. Spike Lee fait entrer vraiment la cancel culture, l'intelligence artificielle et une description très superficielle des bas-fonds. On sent qu'il n'y est pas allé depuis très longtemps. Donc le roi Kurosawa est toujours indétrônable et son film est à voir absolument au cinéma.
Alors, Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa à nouveau en salle, et le remake de Spike Lee, Highest to Lowest, disponible sur la plateforme Apple TV+. Merci Charles.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et on enchaîne avec un film qui lui aussi décortique les crises amoureuses des cadras, c'est Libre Échange, le deuxième long en tant que réalisateur de l'acteur américain Michael Angelo Covino. Côté pile, un scénario comique, on va dire plutôt classique, carré la quarantaine donc, mais jeune marié, se fait plaquer par son épouse, il court, mais vraiment, chez un couple d'amis, et qui lui explique que le secret de leur couple à eux, c'est le polyamour, qu'à cela ne tienne donc. Côté face, un rythme d'enfer et un goût pour l'absurde assez prononcé. On commence avec un avis rapide, Charles Bosson.
Eh bien, je crois qu'on est très avide de découvrir des nouveaux noms du cinéma américain et de la comédie. Moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui m'apparaît comme ça, qui est très séduisant, très fort et assez drôle. Et puis, malheureusement, j'ai trouvé le film de plus en plus irritant et de plus en plus confus et assez conformiste.
Guillaume Erignac.
Je suis assez d'accord sur le côté conformiste du film, mais il faut quand même reconnaître que c'est une comédie drôle, ce qui est devenu extrêmement rare dans le marasme américain de la comédie. Mais effectivement, c'est une comédie drôle dont le ressort comique ne lui permet pas d'être une drôle de comédie.
C'est joliment dit. On écoute la bande-annonce de Libre-Échange.
I want to get divorced.
Please don't say that.
I'm unfaithful. I've been unfaithful.
Just one time? Two. Please don't make me count. Three.
Gary! Ça va?
Non. T'aurais pas de l'eau.
J'ai pas envie de divorcer.
Personne n'en a envie.
Elle, si.
Divorcer, c'est pas la fin du monde. J'ai lu un bouquin.
C'était un article.
C'est pareil, on est ouvert.
Vous vous foutez de ma gueule?
On est un couple très libre.
Libre échange de Michael Angelo Covino avec Dakota Johnson, Adria Arjona, Michael Angelo Covino himself et Kyle Marvin, Charles Bosson. Ça commençait bien, apparemment.
Alors ça commence très très bien. Ça commence par une scène en voiture avec un couple qui a l'air de s'adorer, qui chante à tue-tête et qui chante faux. Ça, c'est toujours une belle manière
on
de
adore les gens qui
déjà
faux dans les comédies.
Absolument. Et quand on chante faux ensemble, c'est généralement qu'il y a un problème, donc un problème de couple. Et le personnage dit à sa femme qu'il l'a inscrit à un cours de poterie. Elle est furieuse parce qu'elle lui rappelle qu'elle a envie de nouvelles expériences sexuelles, pas de poterie avec son mec. Elle lui propose ensuite de le masturber au volant. Il accepte un peu à contre-cœur, il commence à s'adonner à cet acte et tout à coup ils sont doublés par un coupé rouge et la voiture va avoir un accident terrible et tout ça est filmé depuis le capot dans un plan circulaire hyper complexe dans une comédie de mœurs. Et pour moi on voit tout à la fois le charme et le problème de ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui voudrait toucher l'intime, qui voudrait vraiment s'intéresser à des problèmes, à des histoires de couple. Il y a un petit contresens sur le titre, parce qu'en fait, Splitsville, oui. Ça n'est pas, on sous-entend pas l'idée d'un échangisme, mais en fait, en réalité, Splitsville, c'est une expression. Quand un couple se sépare, on dit, ils sont à Splitsville, ils sont en train de se quitter, de se séparer. Mais pour moi, ces cinéastes ont toujours besoin, et ça, c'est un vrai symptôme actuel, et je me pose vraiment cette question de pourquoi, de toujours tout spectaculariser. C'est-à-dire qu'il faut avoir recours au plan séquence, il faut des scènes de baston que je trouve un peu invraisemblables, il faut toujours un vecteur dans la mise en scène qui va créer artificiellement du rythme pour faire de la comédie une performance. Et là aussi, je trouve qu'il y a un contresens dans les références, c'est-à-dire que quand on revoit Blake Edwards, dans Blake Edwards, ce qui fait le génie de Blake Edwards, c'est les temps morts. C'est-à-dire quand on revoit ces films-là aujourd'hui, moi je suis émerveillé par la confiance qu'on a dans ce temps mou, dans ce temps mort, dans lequel surgissent voilà des grands moments de comédie. Et là, je trouve que à force de forcer en permanence la comédie et le rire, le film se ramollit considérablement.
Guillaume Aurignac, c'est drôle, vous avez dit.
Oui, c'est drôle, je suis un peu en désaccord avec Charles là, sur ce coup-là, bien. Parce que je trouve que justement, la question du plan séquence, qui était déjà dans leur précédent film The Climb, qui avait exactement le même procédé, c'est-à-dire une première séquence miniature qui explique de manière miniature ce que va être le film et qui parle de leur relation à eux deux. Je trouve que le plan séquence qui est extrêmement présent dans ce film-là, sert quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tout le principe comique de leur cinéma est un principe de sortie de route. Or, il faut bien qu'il y ait une route pour ça. Et le plan séquence, c'est la route. C'est ce qui permet de cadrer un peu les choses et qui permet aux personnages de décadrer, de se décaler constamment. Typiquement, la première séquence, c'est une séquence de sortie de route. C'est-à-dire que cette séparation à l'intérieur de l'habitacle de la voiture devrait continuer à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Sauf que très vite, une fois que la séparation est actée, le personnage masculin sort de la voiture et se met à marcher. Il termine la route en marchant. C'est exactement leur procédé comique. C'est-à-dire toujours de faire un effet de décalage, plus que sur un effet de rythme et de percussion. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a fait rire tout au long du film. Ce qui, pour moi, donne des séquences très intéressantes. Il y a une séquence avec un mentaliste à la fin que je trouve, enfin, c'est un gag génial, je trouve. Et j'aime beaucoup la séquence d'action, enfin, la séquence de lutte entre les deux personnages. Pourquoi? Parce qu'elle est effectivement, elle est improbable, elle est impossible. Et en fait, ils se décalent par rapport à l'image qu'ils ont de cette espèce de génération X de petits blancs fragiles et qui d'un seul coup se mettent à se battre comme s'ils faisaient des lutteurs de catch. C'est là où je trouve que le ressort comique marche très bien. Le problème, c'est que ce ressort comique marche sur les éléments de comédie, mais ne marche pas sur ce que veut raconter le film. Or, a priori, le film veut nous parler d'une sorte d'élan anarchique amoureux. Il raconte exactement l'inverse à la fin, c'est-à-dire le rapatriement dans le conformisme.
On revient dans le rail.
Oui, on revient dans les rails. Ouais. C'est exactement ça. Et le rapatriement dans une sorte de tradition conjugale, familialiste, voilà. Et pourquoi il raconte ça? Moi, je me suis posé la question. Pourquoi, en fait, cette espèce d'élan anarchique est constamment réprimé par ces deux auteurs, c'est un couple d'auteurs réalisateurs. Il y en a un qui réalise, l'autre qui coécrit et qui joue dedans. Enfin, les deux jouent dedans. Eh bien, en fait, quand on voit leur précédent film, ça raconte exactement la même histoire. C'est qu'en fait, c'est une histoire d'amitié, les aléas de leur histoire d'amitié. Mais qui est constamment trahi par les trahisons amoureuses qui se font l'un l'autre avec leur partenaire. Or, on se rend compte très vite, au bout d'un moment, qu'en fait, le vrai sujet de leur film, c'est l'espèce de relation homo-érotique larvée qu'il y a entre... La bromance entre ces deux personnages-là. Et en fait, c'est comme s'ils avaient peur d'aller sur ce terrain-là. Et ils sont tétanisés. Ils sont un peu tétanisés, probablement, par ça. Et du coup, ils rapatrient très vite, à la fin, sur la question de la tradition, de la conjugalité, et voilà. Et tout ça se fait aux dépens de qui? Des personnages féminins, oui, qui sont constamment à la périphérie du film. Et il y a une petite notation misogyne, quand même, dans ce cinéma-là.
Charles Bosson, vous êtes d'accord?
Oui, complètement d'accord. Moi, j'ai tout de suite pensé à un film que j'adore, qui est Bob Carroll, Ted et Alice, le film de Paul Mazursky, qui était un des premiers films, en 1969, qui abordait vraiment frontalement la question de l'échangisme, voilà, d'une sorte de crise de couple, puisque tout le monde fait la révolution. Qu'est-ce que nous, on fait de tout ça? Et comme le dit très bien Guillaume, les personnages féminins qui sont absolument sublimes, elles sont toutes les deux beaucoup trop belles pour eux, pour reprendre un titre de Blier, Adria Arjona et Dakota Johnson, sont vraiment mises en périphérie pour que ces deux garçons nous emmènent quand même toujours sur les mêmes terrains de comédie et une fois de plus de performance. Le chef opérateur du film, c'est Adam Newport-Berra et c'est assez intéressant de voir sa filmographie puisqu'il a fait des épisodes d'Euphoria, il a fait des épisodes de The Bear, de The Studio, la série de Seth Rogen, où justement les personnages ne cessent de se prendre des coups, des portes. Voilà, je pense que ce sont vraiment des cinéastes qui sont doués pour le burlesque, qui ont besoin de se prendre. Quand Jean-Marie Straub avait rencontré Fassbinder dans les années 50 ou 60, il disait c'est quelqu'un qui n'a plus l'habitude de se prendre des portes. Et je pense que l'Amérique aujourd'hui en est là et que les Américains ont besoin de se prendre des baffes, de tomber sur des chaises. Voilà. Et ce cinéma-là, je le trouve assez passionnant. Seulement, il n'y a pas besoin de le filmer en plan séquence. Il n'y a pas besoin de rajouter des caisses de musique, de tubes, etc. Mais voilà, il faut affronter un petit peu ces temps morts. Je pense que c'est le problème principal de ce film.
Qu'est-ce que ça raconte de l'amour actuellement? Parce que c'est quand même le sujet aussi, c'est ces couples qui vont expérimenter le polyamour. Il est dans quelle actualité ce film-là?
Moi, je trouve que ça raconte surtout quelque chose sur ces deux auteurs, au sens où on sent qu'ils sont nés dans les années 80, début des années 80. Donc, c'est pas leur génération, a priori, le polyamour, la relation libre, voilà. Donc, ils essaient de se raccrocher à ça. Mais en fait, comme ça correspond pas à leur génération, et probablement à leur psychologie, leur mentalité, leur vision de l'existence amoureuse, ils vont raccrocher sur quelque chose de très traditionnel. Mmh. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'il y a une vraie astuce, malice, qui trahit un peu le propos du film au départ.
Il y a un rythme de fou quand même.
Moi, il y a une scène que je trouve extraordinaire où Adria Arjona commence à pratiquer justement une forme d'amour libre. Elle a un jeune amant qui est sublime, qui est joué par Craig Gillespie. Et puis tout à coup, Kyle Marvin revient. Il squatte dans la cuisine comme une espèce de présence, un peu comme un zombie. Il attend. Et quand elle descend pour boire un verre entre deux séances de jambes en l'air, il la regarde et il commence à avoir une discussion très très mature. Tous les deux, il dit que finalement il a compris, qu'il accepte et tout. Et là, on découvre que le jeune amant est descendu et qu'il les regarde. Et quand il les regarde, il dit qu'est-ce que c'est beau, ces vieux qui s'aiment. Et là, les deux ont une remarque, ils lui disent, on n'est pas si vieux, va te coucher, Jackson. Et ce va te coucher, Jackson, ce timing-là, m'a fait extrêmement rire. Et je trouve que là-dessus, la série effrite un petit peu. Bah, c'est très actuel de questionner, voilà, le modèle hétérosexuel, le couple, voilà, qu'est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on continue à le vivre? Est-ce qu'on peut l'exploiter ou l'explorer différemment? Et je trouve que dans cette scène, voilà, il y a des horizons, effectivement, il y a des très beaux horizons de comédie dans ce film.
Oui, clair, ils leur disent, non, on n'a pas envie d'y venir. Nous.
Voilà, c'est ça.
Guillaume Aurignac, vous disiez, c'est assez rare dans le paysage de la comédie américaine. Qu'est-ce qu'elle a, la comédie américaine, en ce moment? Elle n'est pas drôle, apparemment. Mais...
Non, elle n'est pas très drôle. Il y a, enfin, on peut dire que ça date de ça fait une quinzaine d'années que c'est comme ça. Après la grande période Apatow, on a perdu de grands auteurs comiques aux États-Unis et avec des vraies visions. Et là, j'ai l'impression que c'est de là, par des effets de répétition depuis leur premier film, essaie de la réactiver un petit peu, cette comédie américaine, mais c'est vrai, avec des élans un peu conformistes. Alors que le principe de la comédie, et surtout de la comédie américaine, c'est qu'elle est totalement anarchisante.
Charles Bossou ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut vraiment encourager les gens à découvrir The Climb, qui était leur premier film, qui me semblait beaucoup plus clair dans son principe, sur vraiment une sorte d'amitié entre deux hommes qui est minée par ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est une amitié qui dure dans le temps, qui aurait dû s'arrêter, une amitié toxique. Et ce qui est drôle, c'est que chaque scène est un espèce de petit court-métrage sur « Allez, on redonne une chance à cette amitié » et on voit comment à chaque fois ça s'enraye, ça merde, ça déconne. Et là-dessus, le film était, je trouve, avait une plus grande modestie et faisait une part beaucoup plus généreuse au personnage féminin qui était beaucoup plus intéressant.
On disait qu'Alex Lutz avait sûrement jeté un œil vers Cassavetes. Là, les deux auteurs, eux, se réclament beaucoup du cinéma français.
Oui.
Alors, ouais, je savais pas, mais enfin, ouais. Effectivement, The Climb démarre en France.
Ouais, ils avaient revu tout Sautet, tu vois, par exemple. Ils avaient revu tous les films de Sautet. Ils citaient Pierre Etex. Enfin, je pense que c'est des cinéastes, comme beaucoup de cinéastes de leur génération, c'est la cinéphilie un peu letterbox. C'est-à-dire qu'on cite beaucoup de noms. Ouais. Après, il faut voir ce qu'il en reste dans le film. Mais oui, je pense qu'ils ont vu César et Rosalie. En fait, ils sont sensibles à ce que les Français ont été capables de capter de la beauté des relations humaines, de la tendresse, de la complexité, de la cruauté des relations humaines. Et voilà, je pense qu'ils ont un regard d'américain, voilà, c'est pas très gentil de le dire comme ça, mais un peu touriste sur ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on en prend un peu la forme, mais sans en comprendre totalement ce qui en fait la beauté, la virtuosité.
La réalité de l'influence, pour moi, c'est Woody Allen, mais le problème, justement, si on fait la comparaison, c'est que c'est Woody Allen sans la satire du milieu. Quoi. C'est là où ils sont très en retrait.
C'était donc Libre-Échange de Michael Angelo Covino, et nous avons parlé également d'Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa et de Connemara d'Alex Lutz. Charles Bosson, Guillaume Aurignac, merci beaucoup d'être venu dans les midis nous éclairer de vos lumières. Toutes les références et toutes les infos sur les films dont nous avons parlé sont évidemment sur la page des Midis de Culture. Maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée.